Chapitre 9. De grandes tentes aux couleurs criardes couvraient les collines tout autour de Fairfield. Pourtant, malgré les rires, les cris, les échos des chansons et les beuglements paillards, il ne s'agissait pas du campement d'une fête foraine géante, mais du cantonnement d'une armée d'occupation. Le pavillon de l'empereur et ceux de sa suite imitaient le style très particulier des habitations d'un peuple de nomades d'Alter Rang, le pays natal de Jagang. Mais leur beauté et leur luxe allaient très au-delà des antiques traditions. Bien plus imaginatif que n'importe quel chef tribal, le maître de l'ordre impérial créait chaque jour son propre héritage culturel, et rien n'imposait de limite à sa fantaisie. Tout autour de la ville, aussi loin que Nietzsche pouvait voir, se dressaient les tentes beaucoup plus petites et, ô combien plus crasseuses, des soldats. Très souvent en peau de bête, mais parfois en toile huilée, elles n'avaient qu'un point commun, une totale absence d'uniformité. Après la mise à sac, les soudards avaient disposé tout autour de leur résidence de magnifiques fauteuils, revêtus de velours dérobés dans les maisons huppées de la capitale. Le contraste était si frappant qu'on aurait pu croire à de l'humour volontaire, mais les subtilités de ce genre, Nietzsche avait payé pour le savoir, passaient bien au-dessus de la tête des guerriers de l'ordre. Quand l'armée lèverait le camp, ces remarquables pièces d'ameublement, trop encombrantes pour être emportées, seraient transformées en petits bois ou laissées à pourrir sur place. Les chevaux étaient attachés à des piquets un peu partout dans le campement. Quelques-uns plus chanceux avaient droit à des enclos de fortune. Le bétail, en revanche, était systématiquement parqué dans des zones clôturées. Les chariots stationnaient au hasard, comme si on les avait simplement laissés là où on avait trouvé de la place. Si une partie de ces véhicules appartenait aux civils qui suivaient l'armée en campagne, la majorité transportait du matériel militaire ou des vivres. En revanche, l'ordre ne voyageait avec pratiquement aucune machine de guerre, car les sorciers ralliés à sa cause remplaçaient avantageusement les balistes et autres catapultes. Alors que des nuages bas accentuaient la pénombre du crépuscule, l'air charriait une épouvantable odeur d'excréments humains et animaux. Les champs naguère luxuriants qui entouraient Fairfield n'étaient désormais plus que des latrines géantes. Les 2000 hommes revenus avec Nietzsche s'étaient déjà volatilisés, avalés en quelques minutes par le campement tentaculaire. Malgré le vacarme insupportable et l'anarchie apparente, il régnait un certain ordre dans les camps de l'armée impériale. Il existait bel et bien une chaîne de commandement, et les officiers, comme tous les militaires, attribuaient des missions et distribuaient des corvées. Tandis que certains hommes s'occupaient de leurs armes et de leur équipement, par exemple en plongeant leurs cottes de mailles dans des tonneaux remplis d'un mélange de sable et de vinaigre qui les débarrasserait de la rouille, d'autres s'affairaient autour des feux de cuisson. Une petite armée d'artisans réparait les armes ou découpait du cuir pour fabriquer de nouvelles bottes. Dans tous les coins, des médecins soignaient les petites misères des soldats et des arracheurs de dents les faisaient hurler de douleur. Des mystiques de tout poil déclamaient des litanies censées conjurer les démons et proposaient leurs douteux services à toutes les âmes tourmentées. Leur service achevé, des soldats se réunissaient par petits groupes pour jouer aux dés ou se saouler. Les civils qui les accompagnaient se mêlaient parfois à ces divertissements, les prisonniers aussi, mais jamais de leur plein gré. Même au cœur de cette multitude, Nietzsche se sentait seul, et l'absence de Jagang dans son esprit accentuait cette impression. Elle ne se plaignait pas d'être abandonnée, car elle n'accueillait jamais avec plaisir ce visiteur, mais être totalement isolée avait quand même quelque chose de déconcertant. Quand celui qui marche dans les rêves investissait ses pensées, elle ne pouvait rien lui dissimuler, y compris les détails les plus intimes de sa vie. Tapis dans un coin de sa tête, il voyait et entendait tout. Chaque parole prononcée, la moindre idée fugitive et le plus petit désir secret. Il savait ce qu'elle mangeait, combien de fois par jour elle s'éclaircissait la gorge ou toussait, et la suivait même dans les toilettes. Avec lui, on n'était jamais seul. Une intrusion totale et sans limite. La plupart des sœurs n'avaient pas résisté à ce harcèlement. Pis que tout, si Jagang plantait en permanence ses griffes dans le cerveau de ses proies, on ne savait jamais quand il était concentré sur soi. Parfois, on pouvait l'insulter copieusement et ne pas recevoir de châtiment, parce que son attention était ailleurs. En d'autres occasions, une simple mauvaise pensée à son sujet suffisait à s'attirer de terribles représailles. Comme ses compagnes, Nietzsche souffrait de sentir les griffes de Jagang fouiller son âme. Chez elle, cependant, il arrivait qu'elle se retire et aucune autre sœur captive n'avait cette chance. Bien sûr, cela ne durait pas, Et la maîtresse de la mort ignorait pourquoi elle avait ce privilège, mais le plus infime répit était toujours bon à prendre. Slalomer en calèche entre les tentes et les feux de camp étant impossible, Nietzsche sortit du véhicule et entreprit de gravir la colline à pied. Bien entendu, les soldats se firent un devoir de multiplier sur son passage les regards lubriques et les remarques paillardes. « Très bientôt, supposa-t-elle, ces soudards pourraient disposer d'elle comme ils l'entendaient. Car après ce qu'elle avait fait, l'empereur devait bouillir d'impatience de lui infliger une punition mémorable. » Jagang envoyait régulièrement les sœurs servir sous les tentes, comme il disait. Parfois pour les châtier, mais plus souvent encore afin de leur montrer qu'elles étaient des esclaves soumises à ses moindres caprices. Là encore, Nietzsche était une exception. L'empereur la réservait pour son seul amusement, et celui des rares officiers, comme Kadar Cardiff, qu'il jugeait digne de la partager avec lui. Les autres sœurs enviaient ce privilège à la maîtresse de la mort. Les imbéciles! Malgré ce qu'elles pensaient, être l'esclave personnel de Jagang n'avait rien d'une sinécure. Servir sous les tentes non plus, mais ça durait en moyenne une ou deux semaines, et on était relativement tranquille après. Si cruel qu'il fût, l'empereur restait un chef lucide, et il mesurait trop la valeur des sœurs, ou plutôt de leur pouvoir, pour ne pas les ménager un peu. Nietzsche ne bénéficiait pas de ce régime de faveur. Assez récemment, elle avait été séquestrée pendant 2 mois dans la chambre de Jagang, qui désirait la voir à sa disposition à toute heure du jour ou de la nuit. Les soldats du rang brutalisaient les sœurs, mais ils prenaient garde à ne pas dépasser certaines limites. Jagang et ses amis, eux, ne s'imposaient aucune restriction. De temps en temps, fou de rage contre elle, avec ou sans raison, l'empereur condamnait Nietzsche à 1 mois de service sous les tentes.
« Pour te donner une leçon, ma petite chérie, » disait-il invariablement à ces moments-là.
Imperturbable, la maîtresse de la mort inclinait la tête et acceptait avec grâce une punition qu'elle trouvait moins pénible, tout compte fait, que son lot quotidien d'humiliation et de souffrance. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Jagang la rappelait et à contre-cœur annulait le châtiment. Dès le début, Nietzsche avait bénéficié d'un statut et d'une autonomie que les autres sœurs lui enviaient. Sans jamais avoir rien fait pour cela, elle était sortie des rangs de l'infâme troupeau de prisonnières. Selon Jagang, qui lisait leurs pensées, les sœurs l'avaient surnommée « la reine esclave ». Cette confidence était sans doute censée faire plaisir à Nietzsche, à la manière très particulière de l'empereur, bien entendu. Mais pour être honnête, ce titre douteux la laissait aussi indifférente que de se savoir appelée « maîtresse de la mort ». Pour l'instant, elle flottait tel un grand lys dans une mare d'hommes crasseux et puants. Cherchant à être le moins désirable possible, certaines sœurs se négligeaient et finissaient par empester autant que les soldats. Une tactique dégradante qui ne leur apportait pas grand-chose. À quoi servait de vivre en permanence dans la terreur puisqu'elles n'avaient aucune influence sur ce que décidait Jagang ? Prendre les choses comme elles venaient, voilà ce qu'il fallait faire. Nietzsche continuait à porter ses fins chemisiers noirs suggestifs, et elle ne cachait jamais ses longs cheveux blonds sous un châle. Autant que cela se pouvait, elle agissait comme une femme libre. Les mauvais traitements de Jagang l'indifféraient, et il le savait. Du coup, comme Richard pour elle, Nietzsche était une énigme aux yeux de l'empereur. De plus, elle le fascinait. Si cruel qu'il se montrât avec elle, il gardait en permanence une sorte de « quant à soi ». Quand il la tourmentait, elle s'abandonnait à sa brutalité comme si elle pensait la mériter. Et lorsque la souffrance éveillait quelque chose dans les profondeurs de son âme déserte, il reculait en sursaut et cessait de la torturer. Pareillement quand il menaçait de la tuer. Nietzsche attendait calmement qu'il le fasse, parce qu'elle se savait indigne de vivre. Devant cette réaction, Jagang levait aussitôt la sentence. La profonde sincérité des réactions de Nietzsche garantissait sa sécurité, tout en la mettant en permanence en danger. En quelque sorte, elle était une biche perdue parmi des loups et protégée par le manteau de son indifférence. Dans la nature, la biche s'attirait des malheurs parce qu'elle tentait de fuir. Sur ce plan, Nietzsche ne risquait rien puisqu'elle ne voyait pas sa captivité comme une atteinte à ses intérêts. Rien de plus logique en vérité, considérant qu'elle n'en avait aucun. En plusieurs occasions, elle avait eu la possibilité de s'évader, mais n'en avait rien fait. Plus que tout le reste, cette apparente résignation fascinait Jagang. Parfois, il semblait même la courtiser dans toutes les règles de l'art. Qu'éprouvait-il exactement pour elle? Elle n'en savait rien, et n'avait jamais cherché à le découvrir. À certains moments, l'empereur semblait se soucier d'elle, et il lui arrivait même, très rarement, de lui témoigner quelque chose qui ressemblait à de l'affection. D'autres fois, lorsqu'elle partait en mission, il semblait heureux à l'idée d'être débarrassé d'elle pour un moment. Intrigué par le comportement paradoxal de Jagang, Nietzsche se demandait de temps en temps s'il ne se croyait pas amoureux d'elle. Si grotesque que parût cette idée, elle ne lui faisait ni chaud ni froid, même dans le cas improbable où elle aurait été exacte. Cela dit, elle doutait que Jagang fût capable d'aimer. Très probablement, il ignorait jusqu'au sens de ce mot, et le concept qu'il recouvrait devait lui passer largement au-dessus de la tête. Nietzsche, en revanche, en savait bien trop long sur le sujet. Alors qu'elle approchait du pavillon de Jagang, un soldat barra le chemin de la maîtresse de la mort. Un sourire idiot sur les lèvres, il la regarda, sûrement convaincu d'être trop impressionnant et menaçant pour qu'elle refuse son invitation. Nietzsche aurait pu s'en débarrasser en mentionnant que Jagang l'attendait impatiemment, ou utiliser son pouvoir pour le foudroyer sur place. Sans broncher, elle se contenta de regarder le crétin aviné. Comme elle le prévoyait, cette réaction le déconcerta. En général, les hommes mordaient à l'hameçon uniquement quand l'appât se tortillait. La voyant rester de marbre, le type se rembrunit, marmonna des insultes, puis s'en alla d'un pas traînant. Nietzsche continua son chemin vers le pavillon de l'empereur. Les tentes en peau de mouton des nomades d'Alter Rang, avant tout fonctionnelles, étaient en général assez petites. La version imaginée par Jagang, ovale plutôt que ronde, était considérablement plus grande. Doté de trois poteaux centraux pour soutenir son toit à fêtes multiples, le pavillon, car c'était bien ainsi qu'il fallait l'appeler, était composé de panneaux de peau de bête ornés de riches broderies. Sur toute la circonférence, à l'endroit de la jointure entre les cloisons et le toit, pendaient des banderoles multicolores qui permettaient d'identifier de loin le palais ambulant de l'empereur. Et bien entendu, sur chaque fête, des bannières rouges et des fanions jaunes battaient fièrement au vent, quand il y en avait, ce qui n'était pas le cas ce soir-là. À l'extérieur, une femme battait des petits tapis enrichis de fils d'or accrochés à des filins du pavillon. D'une main qui ne tremblait pas, Nietzsche écarta le lourd rabat orné d'écussons d'or et de médaillons d'argent. Sous le pavillon, des esclaves s'affairaient. En silence, ils nettoyaient les tapis qui couvraient le sol, époussetaient les précieuses céramiques exposées sur les meubles coûteux et s'assuraient fébrilement du bon état des centaines de coussins colorés disposés sur toute la circonférence de la fastueuse résidence. Des tentures brodées de motifs traditionnels d'Alter Rang divisaient l'espace en pièces, toutes assez grandes pour qu'on y organise un petit banquet. Dans le toit, quelques ouvertures couvertes d'un tissu vaporeux laissaient filtrer juste ce qu'il fallait de lumière pour qu'on y voie sans devoir plisser les yeux. Partout, des lampes et des candélabres attendaient de prendre le relais quand la nuit serait tombée. Nietzsche ne se soucia pas des regards que lui jetèrent les deux gardes postés à l'entrée et les esclaves dérangés en plein travail. Dans cette première salle, exactement au centre, se dressait le trône de Jagang, tendu de velours rouge. L'empereur donnait parfois ses audiences ici, mais aujourd'hui le siège était vide. Sans hésiter ni blêmir, à l'inverse des autres femmes invitées par Jagang dans ses quartiers privés, Nietzsche traversa le pavillon pour gagner la chambre à coucher impériale. Un jeune esclave de 16 ou 17 ans, agenouillé devant la tenture de séparation, brossait frénétiquement le tapis posé devant l'entrée de la pièce. Sans croiser le regard de Nietzsche, il l'informa que son excellence n'était pas ici pour l'instant. Ce jeune homme, appelé Irwin, avait le don, et il résidait naguère au palais des prophètes où on le préparait à devenir un sorcier. Désormais, il faisait le ménage et vidait les pots de chambre. La mère de Nietzsche aurait trouvé cela très moral. Jagang pouvait être n'importe où. En train de boire et de jouer avec ses hommes, en pleine inspection des troupes, occupé à étudier les nouveaux prisonniers pour choisir ceux et celles qui le serviraient, ou en grande conversation avec le second de Kadar Cardiff. Nietzsche aperçut trois sœurs recroquevillées dans un coin de la chambre. Comme elles, ces femmes étaient les esclaves de l'empereur. En approchant, la maîtresse de la mort vit qu'elle s'échinait à réparer une longue entaille dans la cloison.
« Sœur Nietzsche,
s'écria Georgia en se levant d'un bond, l'air soulagé.
Nous nous demandions si vous étiez encore vivante. Après si longtemps sans vous voir, nous redoutions que, eh bien...
Nietzsche étant une sœur de l'obscurité dévouée au gardien, le maître du royaume des morts, elle s'étonna que trois sœurs de la lumière se soient inquiétées pour elle. À vrai dire, elle avait quelques doutes sur leur sincérité, mais ces idiotes pensaient peut-être que la captivité rapprochait toutes les sœurs, quelle que soit leur obédience. De plus, informée que Nietzsche bénéficiait d'un régime de faveur, elle brûlait sans doute d'envie d'être dans ses petits papiers.
« J'étais en mission pour son Excellence. »«
Bien sûr !»
souffla Georgia en baissant la tête. Ses deux compagnes, Rochelle et Aubry, poussèrent sur le côté un sac plein d'ornements en os, se dégagèrent des longueurs de fil de lin enroulées autour de leurs chevilles et se levèrent à leur tour. Comme Georgia, elles inclinèrent humblement la tête. À l'évidence, ces trois crétines tremblaient de peur devant ce qu'elles croyaient être la favorite de Jagang.
« Sir Nietzsche, » dit Rochelle, « son Excellence est très en colère. »«
Il est même fou de rage, »
renchérit Aubry.
« Il a frappé les cloisons à grands coups de couteau en hurlant que vous étiez allé trop loin cette fois. »
Nietzsche se contenta de foudroyer du regard les trois pleurnicheuses.
« Nous voulions vous avertir, »
ajouta Aubry,
« pour que vous soyez prudente. »
Comme s'il n'était pas déjà bien trop tard pour ça, pensa la maîtresse de la mort, pleine de mépris. Voir des femmes plusieurs fois centenaires dans un tel état de frayeur la révulsait.
« Où est Jagang ? »
demanda-t-elle simplement.
« Il a transféré ses quartiers dans un grand domaine, un peu à l'extérieur de la ville, »
répondit Aubry.
« L'ancien ministère de la Civilisation, »
précisa Rochelle.
« Pourquoi a-t-il fait ça ? Son pavillon ne lui plaisait plus ? Pendant votre absence, il a décidé qu'un empereur avait besoin d'une résidence appropriée.
Appropriée à quoi ?
Eh bien, un lieu qui montre son importance au monde entier.
Oui,
dit Aubry,
c'est exactement ça. Il a également ordonné qu'on lui construise un immense palais en Alterrang.
Il voulait s'installer au palais des prophètes,
rappela Rochelle,
mais il a été détruit. Ça lui a probablement donné envie de se faire bâtir la résidence la plus somptueuse qui ait jamais existé.
« Foutaise !»
lâcha Nietzsche.
« Il désirait vivre au palais des prophètes à cause du sortilège qui empêchait de vieillir. Le reste ne l'intéressait pas. »
Les trois sœurs de la lumière haussèrent les épaules pour signifier qu'elles n'en savaient pas plus. Nietzsche, elle, commençait à deviner ce que son Excellence mijotait.
« Donc il est là-bas ? Que peut-il y faire ? Apprendre enfin à manger avec des couverts ? Apprécier la douceur de la vie entre des murs douillés ?
« Il nous a simplement dit qu'il changeait de résidence, » répondit Georgia,
« et il a emmené avec lui toutes les sœurs assez jeunes et belles pour... Enfin, vous me comprenez, nous sommes chargés d'entretenir le pavillon au cas où il aurait envie d'y revenir. »
Apparemment, rien n'avait changé dans la vie de l'empereur, à part le décor. Nietzsche soupira d'agacement. N'ayant plus sa calèche, elle serait obligée de faire le chemin à pied.
« Bien, comment va-t-on à ce domaine ?»
Quand Aubry lui eut donné les informations idoines, la maîtresse de la mort remercia les trois idiotes et fit mine de partir.
« Sœur Alessandra a disparu, »
dit Georgia d'un ton dégagé qui sonnait atrocement faux. Nietzsche s'arrêta et se retourna. Elle étudia attentivement sœur Georgia. D'âge moyen, en apparence, cette femme se dégradait un peu plus chaque fois qu'elle la voyait. En guise de vêtements, elle portait des haillons dont elle semblait se rengorger, comme s'il s'était agi d'un glorieux uniforme. Ses cheveux grisonnants auraient pu lui conférer une certaine dignité, mais il n'avait à l'évidence pas vu une brosse et encore moins un morceau de savon depuis des semaines. Selon toute probabilité, eux aussi grouillaient de poux. Certaines femmes, sous le prétexte qu'elles vieillissaient, prenaient plaisir à devenir les souillons qu'elles avaient secrètement rêvé d'être toute leur vie. Oui. Sœur Georgia semblait se réjouir de sa décrépitude.
« Comment ça a disparu ? Vous voulez dire qu'elle est morte ?»
Georgia écarta les mains en signe d'impuissance, mais Nietzsche devina qu'elle jubilait intérieurement.
« Nous ne savons pas ce qui est arrivé. Elle s'est volatilisée, c'est tout. »«
Je vois.
Exactement au moment où la dame abbesse aussi a disparu. »
ajouta Georgia avec une innocence ridiculement mal feinte. Nietzsche ne gratifia même pas les trois imbéciles d'un froncement de sourcils étonné.
Que fichait Verna ici ?
Pas Verna, sœur Nietzsche,
dit Rochelle.
Annalina.
Georgia foudroya la pauvre fille du regard, car elle venait de lui gâcher tous ses effets. C'était vraiment dommage quand il s'agissait d'une surprise de taille. Comme tout le monde jusqu'à très récemment, Nietzsche devait penser que la précédente dame abbesse était morte. De fait, après son départ précipité du palais des prophètes, elle avait entendu parler des funérailles d'Anna et de Nathan, célébrées une nuit durant par les sœurs, les novices et les apprentis sorciers. Connaissant Anna, Nietzsche se douta immédiatement qu'il devait s'agir d'une de ces mystifications dont elle était friande. Cela dit, celle-là restait quand même hors du commun. Les trois sœurs de la lumière souriaient d'aise, ravies de jouer au petit jeu des ragots à rallonge.
« Donnez-moi les détails importants, » dit Nietzsche,
leur gâtant le plaisir.
« Pour la version longue, je n'ai pas le temps. Sauf si vous avez envie de voir revenir Jagang parce qu'il se sera lancé à ma recherche. »
Rochelle et Aubry blêmirent. Georgia décida que ce n'était plus l'heure de jouer.
« Anna est venue dans le camp pendant votre absence et elle a été capturée.
Pourquoi s'est-elle jetée entre les griffes de l'empereur ?»«
Pour nous convaincre de fuir avec elle, »
dit Rochelle d'une voix qui tremblait un peu.
« Elle nous a raconté des histoires absurdes au sujet des carillons qui arpentaient prétendument le monde et neutralisaient la magie. Des fadaises! Comment a-t-elle pu penser que nous les goberions ?»«
Ainsi, c'est ce qui est arrivé, » murmura Nietzsche. Ce n'étaient pas des fadaises, bien au contraire. Dans son esprit, les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Les autres sœurs, contrairement à elles, n'avaient pas le droit d'utiliser leur pouvoir. Du coup, elles ne s'étaient pas aperçues que la magie fonctionnait mal pendant un moment.
« Selon elles, en tout cas, » dit Georgia.
Distraite, Nietzsche ne se rendit même pas compte que cette phrase faisait écho à sa dernière remarque.
« Une défaillance de la magie, »
raisonna-t-elle tout haut.
Et Anna avait compris que ça empêcherait celui qui marche dans les rêves de contrôler vos esprits.
C'était sans doute pour ça que Jagang, par moment, ne parvenait pas à entrer dans sa tête.
Mais si les carillons sont dans notre monde...
Étaient,
corrigea Georgia.
Même si Anna ne nous a pas raconté n'importe quoi, ils ont été bannis depuis. Son Excellence nous contrôle à sa guise, j'ai le plaisir de le dire, et tout ce qui concerne la magie est redevenu normal. »
Nietzsche lut dans le regard des trois femmes qu'elles se demandaient si Jagang les écoutait à l'instant même. Mais si tout était redevenu comme avant, il aurait dû être dans son esprit. Donc, ce qu'elle venait de prendre pour une explication n'en était pas une.
« Si je comprends bien... » La dame abbesse a commis une erreur et Jagang en a profité pour la capturer.
« Pas exactement, »
fit Rochelle, un peu mal à l'aise.
« Sœur Georgia est allée prévenir les gardes. Nous avons livré Anna à l'empereur, comme notre devoir nous l'imposait. »
Nietzsche éclata de rire.
« Ces chères sœurs de la lumière, comme c'est amusant. Alors que les carillons la privaient de son pouvoir, elle a risqué sa vie pour sauver vos misérables existences et vous l'avez trahie. « C'est bien de vous, vraiment. »«
Il le fallait, »
se défendit Georgia.
« Son Excellence aurait voulu que nous agissions ainsi. Nous sommes destinés à servir. Fuir aurait été stupide. Nous savons où est notre place. »«
Pour ça, oui, »
lâcha Nietzsche. Elle dévisagea les trois fausses saintes qui avaient pendant des siècles prétendu servir le Créateur et se dévouer à sa lumière.
« Vous auriez fait comme nous, »
dit Aubry,
« si nous n'avions pas agi. » « Son Excellence se serait vengée sur nos compagnes. Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger les autres sœurs, et vous êtes dans le lot, soit dit en passant. Il était impossible de ne penser qu'à nous ou à Anna. »
Nietzsche sentit sa bonne vieille indifférence reprendre le dessus.
« Bon, vous avez trahi la dame abbesse. Mais pour commencer, pourquoi pensait-elle pouvoir vous libérer? Elle devait savoir que les carillons finiraient par être bannis. » Qu'avait-elle prévu pour le moment où Jagang aurait de nouveau accès à vos esprits ?
Il l'a toujours eu,
dit Aubry.
Anna voulait nous farcir la tête d'idées ridicules, mais nous ne sommes pas idiotes, et la suite de son histoire était encore plus absurde.
Quelle suite ?
Elle a tenté de nous faire gober des idioties au sujet d'un lien avec Richard Rall,
lâcha Georgia, rouge d'indignation à cette seule idée. Nietzsche dut faire un effort pour continuer à respirer régulièrement.
Un lien? Quelle est cette nouvelle folie?
Selon elle, jurer allégeance à Richard aurait suffi à nous protéger des intrusions mentales de Jagang.
Comment?
Eh bien, ce lien est censé interdire à l'empereur de s'introduire dans l'esprit des gens. Mais nous ne sommes pas candides au point de croire une chose pareille.
Comment fonctionne ce lien? Demanda Nietzsche.
Je n'y comprends rien.
Pour empêcher ses mains de trembler, elle les plaqua sur ses hanches.
Richard l'aurait hérité d'un de ses ancêtres. Pour en bénéficier, disait Anna, il suffit de jurer fidélité à Richard du fond du cœur. C'était si ridicule que je n'ai pas vraiment écouté.
Nietzsche en eut le tournis.
Bien sûr, maintenant tout était clair.
Depuis des mois, elle se demandait pourquoi Jagang n'avait pas capturé toutes les sœurs. Maintenant, elle connaissait la réponse. Parce que ce lien les protégeait. Mais Oulicia et les autres formatrices, à part elle, étaient toujours libres. Tout ça n'avait pas de sens. Pourquoi des sœurs de l'obscurité auraient-elles juré d'être fidèles aux sourciers? C'était inimaginable.
Pourtant, Jagang était incapable à certains moments d'entrer dans son esprit.
Tout à l'heure, vous avez dit que sœur Alessandra a disparu?
Oui, en même temps qu'Anna.
L'empereur ne vous informe pas de tout, loin de là. Il les a peut-être fait exécuter.
Eh bien, c'est possible, mais Alessandra était une sœur de l'obscurité, comme vous, et elle prenait soin d'Anna.
Pourquoi elle? C'était votre mission.
La dame abbesse refusait de nous voir, alors l'empereur a désigné Alessandra.
Nietzsche devina qu'Anna avait dû semer une sacrée pagaille. Mais après avoir été trahi par ses propres protégés, c'était compréhensible. Jugeant la prisonnière très précieuse, l'empereur avait fait ce qu'il fallait pour la maintenir en vie.
« Quand nous sommes entrés dans Fairfield, continua Georgia, le chariot qui transportait Anna ne s'est jamais montré. Un des cochers est finalement arrivé, la tête en sang. Avant de sombrer dans l'inconscience, a-t-il dit, il avait aperçu sœur Alessandra. »
Nietzsche sentit qu'elle s'enfonçait les ongles dans les paumes et se força à rouvrir les poings.
« En clair, Anna vous a offert la liberté, mais vous avez opté pour l'esclavage. »
Les trois traîtresses levèrent fièrement le menton.
« Nous avons agi pour le bien commun, »
dit Georgia.
« Les sœurs de la lumière ne pensent jamais à elles-mêmes, car leur devoir est de soulager les souffrances des autres, pas d'en ajouter. »
« De plus, »
ajouta Aubry,
« vous ne vous êtes pas enfui non plus. Pourtant, de temps en temps, son Excellence perd son emprise sur vous. »
« Comment savez-vous ça ? »
demanda Nietzsche.
« Eh bien, nous... »
La maîtresse de la mort saisit la sœur à la gorge.
« Je t'ai posé une question, petite dinde. Réponds-moi. »
Aubry devint rouge comme une pivoine. Impitoyable, Nietzsche serra plus fort et libéra son pouvoir.
Les yeux révulsés, la sœur de la lumière n'en avait plus pour longtemps. Pour se sauver, elle ne pouvait pas recourir à sa magie parce que Jagang le lui interdisait, comme à toutes les autres, sauf quand cela servait ses intérêts.
Georgia posa doucement une main sur l'avant-bras de Nietzsche.
« Lâchez-la, je vous en supplie. L'empereur nous a interrogés à ce sujet. Voilà pourquoi nous sommes au courant. »
Nietzsche libéra Aubry et se tourna vers Georgia.
« Il vous a interrogé? Qu'a-t-il dit ?»«
Simplement qu'il ne pouvait pas toujours entrer dans votre esprit et qu'il se demandait si nous savions pourquoi. »«
Il nous a torturés, »
gémit Rochelle.
« Mais nous n'avons pas pu lui répondre parce que nous ne comprenons pas ce phénomène. »
Pour la première fois, Nietzsche, elle, entrevoyait une réponse.
« Qu'avez-vous de si spécial, sœur Nietzsche ? »
demanda Aubry en se massant la gorge.
« Pourquoi l'empereur s'intéresse-t-il autant à vous ? Et pour quelle raison êtes-vous en mesure de lui résister ?»
Nietzsche ne daigna pas répondre.
« Merci de votre aide, mes sœurs, »
dit-elle en se détournant.
« S'il ne vous contrôle pas en permanence, »
cria Georgia.
« Pourquoi ne vous évadez-vous pas ?»
Arrivé devant la tenture, Nietzsche se retourna.
« Parce que j'aime voir Jagang torturer des sales sorcières de la lumière comme vous. C'est un si beau spectacle que je ne voudrais pas en manquer une miette. »
Habituées aux provocations de Nietzsche, les trois sœurs ne s'en formalisèrent pas.
« Sœur Nietzsche, »
dit Rochelle,
« qu'avez-vous fait pour que l'empereur soit furieux à ce point ?»«
Pardon ? Oh, cette histoire sans importance. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. J'ai simplement ordonné qu'on attache le commandant Cardiff à une broche pour le faire rôtir comme un cochon.
Les trois fausses saintes sursautèrent. On eût dit un trio de chouettes perchées sur une branche. Georgia arriva sur Nietzsche un regard mauvais où brillait une étincelle d'autorité, un des rares privilèges de l'âge.
Vous méritez toutes les horreurs que Jagang vous a infligées, sœur Nietzsche, et toutes celles que le gardien a en réserve pour vous.
Je sais, on me l'a déjà dit,
répondit simplement la maîtresse de la mort, avant de sortir de la chambre impériale.